de RFI, 18h en temps universel, 19h ici à Paris, 20h à Kiev.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Adrien Delgrange.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une ce soir, eh bien l'avenir de l'Ukraine qui se joue peut-être en Arabie Saoudite.
Russes et Américains autour d'une même table. C'est à Riyad que les représentants de Vladimir Poutine et Donald Trump discutent en ce moment d'un éventuel cessez-le-feu. Ces pourparlers n'ont pas empêché l'armée russe de bombarder aujourd'hui l'Ukraine. Notre correspondante nous attend à Kiev. La Turquie est également à la une. Le maire d'Istanbul est en prison depuis hier. Ce soir encore, des manifestants dénoncent l'incarcération du principal rival du président turc. Au Proche-Orient, la puissance des images. Le Hamas a mis en ligne ce soir une vidéo de deux otages israéliens retenus à Gaza. Et puis dans l'actualité française, l'acteur Gérard Depardieu, jugé depuis ce matin à Paris pour agression sexuelle. Compte rendu de cette première journée d'audience à suivre.
Et puis après ce grand journal du soir, eh bien nous évoquerons le défi sécuritaire des nouvelles autorités en Syrie. Défi souligné par les récents massacres qui ont touché la minorité alaouite. Nous appellerons nos collègues du journal La Croix qui se penchent sur cette question.
Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
Reprise donc des pourparlers sur l'Ukraine entre la Russie et les États-Unis.
Les deux délégations se sont retrouvées aujourd'hui en Arabie Saoudite à Riyad. Des négociations d'ores et déjà qualifiées de difficiles par les autorités russes. De leur côté, les Ukrainiens qui ont discuté avec la délégation américaine hier annoncent une nouvelle rencontre dans la journée. Anne Verdaguer, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que l'on peut espérer de ces différentes rencontres?
Eh bien, vous l'avez dit, les Russes se sont d'emblée déclarés sceptiques quant à l'issue de ces nouvelles négociations. Hier, la rencontre entre les délégations ukrainiennes et américaines a pourtant été qualifiée de productive par le négociateur ukrainien. Washington et Kiev semblent être sur la même longueur d'onde concernant un arrêt provisoire des frappes sur les sites énergétiques. Un accord de principe a été donné côté russe, mais tout l'enjeu consiste à déterminer les moyens techniques pour parvenir à mettre en place cette trêve de 30 jours qui concerne aussi la sécurité de la navigation en mer Noire. À ce stade, le Kremlin s'est uniquement mis d'accord avec Washington sur un moratoire sur les bombardements des sites énergétiques. L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, se montre malgré tout optimiste, disant s'attendre à de vrais progrès, en particulier sur ce cessez-le-feu en mer Noire, qui rendrait possible un retour à l'accord qui avait permis à l'Ukraine d'exporter ses céréales pendant un an, malgré la présence de la flotte russe dans la zone.
Un arrêt des combats d'un mois, notamment sur les infrastructures énergétiques que vous évoquez, Anne Verdaguer, mais les Ukrainiens, eux, se disent prêts à un cessez-le-feu général et sans condition.
Oui, alors où en est-on d'un éventuel cessez-le-feu lors des précédentes négociations à Jeddah en Arabie Saoudite? L'Ukraine avait accepté une proposition américaine de cessez-le-feu de 30 jours, mais la Russie l'avait rejetée, souhaitant imposer ses conditions et notamment l'arrêt de la mobilisation et de l'entraînement des soldats ukrainiens, l'interruption des livraisons d'armes et du partage de renseignements à l'Ukraine, mais aussi que Kiev acte l'occupation de 5 régions par les Russes. Inacceptable côté ukrainien, Moscou ne fait pour le moment aucun compromis, aucune concession et Vladimir Poutine semble jouer la montre malgré de lourdes pertes sur le terrain. L'issue de ces nouvelles négociations demeure donc très vague et comme l'a dit le porte-parole du Kremlin, il s'agit d'un sujet complexe, il y a beaucoup à faire et nous n'en sommes qu'au début.
Anne Verdaguer, des pourparlers qui n'empêchent pas la Russie de bombarder l'Ukraine. La ville de Soumy a été visée aujourd'hui. Emmanuel Chaz, en direct d'Ukraine, vous êtes notre correspondante dans cette ville Soumy, située à la frontière ukrainienne avec la Russie. Emmanuel, la frappe russe a fait au moins 65 blessés, dont 14 enfants.
Oui, tout à fait. Une nouvelle fois, c'est cette ville de Soumy, hein, très proche, à quelques dizaines de kilomètres seulement de la frontière russe, qui a été touchée après ses infrastructures médicales, énergétiques et son université déjà endommagées ces derniers mois. C'est un quartier résidentiel densément peuplé, d'ailleurs, qui a été touché par une frappe de missile cet après-midi. Et effectivement, les blessés se comptent par dizaines. Le bilan est monté à près de 90 personnes, dont 17 enfants qui ont été pris en charge par les secours. Suite à ces frappes, Andriy Sybiha, le ministre des Affaires étrangères, a réagi. Pour lui, toute diplomatie avec la Russie devrait être basée sur la force militaire, sur la pression des alliés, sur des sanctions pour véritablement forcer Moscou à arrêter ce genre de frappe. Alors que le 11 mars, des premiers pour parler des délégations ukrainiennes et russes, séparément avec les États-Unis, avaient laissé entrevoir l'espoir d'un cessez-le-feu au moins partiel qui concernerait les infrastructures énergétiques, la Russie continue de frapper l'Ukraine. Pour la seule semaine passée, plus de 1500 bombes, 1100 drones kamikazes et 15 missiles ont été lancés par Moscou contre l'Ukraine.
Emmanuel Chaz, en direct d'Ukraine pour RFI. Par ailleurs, nous apprenons qu'un correspondant de guerre du principal journal russe, Izvestia, a été tué en Ukraine dans la journée. C'est ce qu'annonce le quotidien.
Autre grand titre ce soir, la situation qui continue de se tendre en Turquie. Ikrem İmamoğlu est désormais derrière les barreaux.
L'arrestation et le placement en détention du maire d'Istanbul, membre de l'opposition turque et considéré comme le rival du principal président, Recep Tayyip Erdogan. Son arrestation continue de mobiliser dans le pays. Extrait de ce rassemblement ce soir de sympathisants d'Ekrem İmamoğlu sur le pont Galata d'Istanbul. Romain Le Maresquet, cette arrestation est également dénoncée par de nombreux autres pays, notamment en Europe.
Si dès l'annonce de l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, de nombreux pays avaient dénoncé des atteintes graves à la démocratie en Turquie, à l'image de la diplomatie française, le placement en détention du maire d'Istanbul ce dimanche, ainsi que les très nombreuses arrestations de manifestants et de journalistes depuis le début des manifestations mercredi dernier, ont accentué les critiques à l'égard d'Ankara, notamment en provenance de l'Union européenne. Guillaume Mercier, porte-parole de la Commission européenne.
What we can say is the arrest of the mayor İmamoğlu and the protesters give rise to the questions regarding Turkey's adherence to its long-established democratic tradition. As a Council of Europe member and an EU candidate, Turkey must uphold democratic values. These rights, the rights of elected officials, as well as the right of peaceful demonstrations, need to be fully respected.
La Grèce, pays frontalier avec la Turquie, juge la situation très instable et préoccupante et menace de reporter une prochaine rencontre entre le Premier ministre grec et le président turc Recep Tayyip Erdogan. En Allemagne, même son de cloche, le porte-parole du chancelier sortant Olaf Scholz appelle les autorités turques à clarifier très rapidement la situation et de manière transparente. Il faut préciser que si Berlin suit de près la situation en Turquie, c'est parce que l'Allemagne abrite aujourd'hui la plus grande communauté turque à l'étranger.
Romain Le Maresquet.
Il est 18h07 en temps universel. Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du Soir sur RFI avec Adrien Delgrange. Adrien, les images comme moyen de pression. Le Hamas diffuse une vidéo de deux otages israéliens enlevés le 7 octobre 2023.
La vidéo d'un peu plus de 3 minutes dont la date d'enregistrement ne peut être vérifiée montre deux otages assis s'adressant en hébreu à des otages qui ont déjà été libérés. Ils demandent notamment de raconter ce qu'ils ont vécu en captivité pour accélérer leur libération.
Et cette vidéo intervient alors qu'Israël a repris ces frappes aériennes intenses sur Gaza.
Israël a notamment mené hier une frappe contre l'hôpital Nasser de Khan Younes. Un responsable politique du Hamas a été tué. Le groupe armé palestinien confirme sa mort. L'hôpital Nasser, l'un des rares encore en fonction dans l'enclave. Sami Boukhelifa, notre correspondant à Jérusalem, a pu joindre un médecin qui travaille dans cet hôpital.
L'armée israélienne parle d'une frappe de précision, mais la destruction est monumentale. Tout un étage de l'hôpital est pulvérisé. C'est là que le docteur Khaled Esser, chirurgien, opérait.
Ils ont directement bombardé le bâtiment principal de l'hôpital Nasser. C'est le bloc opératoire qui a directement été ciblé. Nous avons eu la chance. Nous étions juste à côté avec les équipes médicales. Nos soignants vont bien, mais nous avons perdu deux patients qui ont été tués sur le coup.
Le premier, un jeune garçon de 16 ans. Le second, Ismail Barhoum, était effectivement membre du bureau politique du Hamas. Il était soigné à l'hôpital Nasser à la suite d'une frappe ayant ciblé plutôt son domicile à Khan Younes. Docteur Khaled Esser.
Nous avons creusé durant une demi-heure afin de pouvoir extraire leurs corps des décombres. Notre principal bloc opératoire a été en grande partie endommagé. Il n'est plus fonctionnel et nous avons dû transférer tous nos patients vers un autre département.
Depuis la reprise le 18 mars des opérations militaires israéliennes à Gaza, près de 700 Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants, ont été tués dans les bombardements israéliens. Sami Bourlifa, Jérusalem, RFI.
Alors que nous apprenons que ce soir, l'armée israélienne a intercepté au moins 2 projectiles tirés depuis la bande de Gaza sur le territoire israélien. Les tirs ont été revendiqués par la branche armée du groupe djihad islamique et qu'à l'heure actuelle, des sirènes d'alerte retentissent à Tel Aviv et dans le centre du pays après un nouveau tir de projectile, celui-ci en provenance du Yémen.
On en vient à l'actualité française. Et Gérard Depardieu, ce lundi devant la justice.
Depuis ce matin, le comédien de 76 ans, comparé devant le tribunal correctionnel de Paris, il est accusé par 2 femmes, une décoratrice, une assistante de réalisation, d'agression sexuelle lors du tournage d'un film. C'était il y a 4 ans. Laura Martel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous suivez l'audience après plus de 5 heures de débat. L'audience, et bien sûr le fond, n'a pas réellement encore commencé.
Non, début d'après-midi, c'est d'abord d'un pas claudiquant que le comédien s'est avancé à la barre pour décliner son identité avant de s'asseoir sur un grand cube noir comme les machinistes en utilisent sur les tournages devant ses avocats et ses proches, notamment sa fille Roxane ou l'acteur Vincent Pérez. Gérard Depardieu qui est apparu plutôt à l'aise, saluant, serrant la main ou envoyant des baisers aux témoins qu'il a cités, dont l'actrice Fanny Ardant. « Je souhaite faire une déclaration préalable », avait indiqué le comédien au président. « Eh bien, elle attendra, car d'emblée, son avocat a pris la parole pour réclamer pendant près de 2 heures, l'annulation de la procédure. Maître Assous, qui n'a pas hésité à aborder longuement le fond du dossier, est vindicatif, s'en est pris à l'enquêtrice et au procureur, parfois aux parties civiles, pour dénoncer des investigations à charge qui n'avaient selon lui qu'une mission, faire tomber le monstre sacré. Les parties civiles se sont offusquées de cette plaidoirie sur le fond qui viole le principe du contradictoire, mais surtout de ces bavardages, véritables manœuvres dilatoires pour faire perdre une heure puis une autre et éviter que son client soit enfin jugé sur les faits, a fustigé Maître Durio Diebold. Car le temps est compté. Au vu de l'état de santé de l'acteur, l'expert médical a préconisé qu'il ne passe pas plus de 6 heures à l'audience. Un délai qui se termine d'ici une trentaine de minutes.
Merci Laura. Laura Martel, en direct du tribunal de Paris. L'an dernier, la consommation d'énergie dans le monde a été en forte hausse, plus 2%, soit presque le double de la moyenne des 10 dernières années. Selon le rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie, la consommation d'électricité a notamment fortement augmenté et ceci s'explique par les vagues de chaleur records l'année dernière, mais aussi l'intelligence artificielle ou encore la mobilité douce avec l'arrivée des véhicules électriques. Dans ce contexte, les émissions de gaz à effet de serre du secteur mondial de l'énergie ont continué d'augmenter. Fatih Birol, le directeur de cette agence, préfère voir le verre à moitié plein.
Global emissions last year increased less than 1%.
Les émissions mondiales ont certes augmenté de moins de 1% l'an dernier, mais elles ont augmenté quand même. Si nous regardons le bon côté des choses, nous constatons qu'il existe depuis un certain temps un découplage entre la croissance économique et la croissance des émissions. Et cette dissociation s'est confirmée l'an dernier. L'économie mondiale a connu une croissance robuste, mais les émissions de gaz à effet de serre, elles, ont augmenté de moins de 1%. C'est moins que ce que nous avons connu auparavant. Cela est principalement dû à la part croissante des énergies renouvelables, à la pénétration plus forte de l'énergie nucléaire et au plus grand nombre de voitures électriques et d'autres technologies.
Juste avant de retrouver le journal des sports, côté terrain, côté garde à vue, cette fois-ci des arrestations dans la journée après le match de foot d'hier soir entre la France et la Croatie. 7 personnes ont été interpellées dans la journée, puis relâchées, interpellées pour avoir effectué des saluts nazis durant la rencontre d'hier soir, c'est ce qu'a annoncé le préfet de police de Paris. Il s'agissait de supporters croates qui, lors de l'hymne national, ont effectué ce geste, bras tendu, symbole des saluts nazis. Le sport est et doit rester une fête. Ces individus n'ont rien à faire dans une enceinte sportive, précise le préfet de Paris.
Et puis, il n'a pas encore 30 ans et déjà, il a sorti son 3e album studio.
Il s'appelle Tamino, le nom de scène d'un jeune auteur-compositeur belge, souvent comparé, écoutez Romain, à d'illustres chanteurs folk comme Leonard Cohen ou encore Jeff Buckley.
Rien de moins que ça.
Sophie Torlotin l'a écouté pour nous.
Down is a Mountain, c'est le titre d'un 3e album à l'ambiance lyrique et quasi religieuse. Adepte d'une philosophie du lâcher-prise, Tamino explore un registre folk dépouillé où brille sa voix capable de couvrir plusieurs octaves. Influencé par le folk américain, le chanteur belge de 28 ans a composé et enregistré ce nouvel album à New York, où il vit depuis un an et demi.
New York me fait penser à cette citation de Naguib Mahfouz. La maison n'est pas l'endroit où vous êtes né, la maison est l'endroit où cessent toutes vos tentatives d'évasion.
Tamino cite le grand auteur égyptien Naguib Mahfouz, lui-même a des origines égyptiennes. Son grand-père paternel était le grand acteur et chanteur Mouharram Fouad. Sur cet album et sur scène, ce multi-instrumentiste s'accompagne avec l'ancêtre de la guitare, le oud, mais peut aussi chanter en duo, ici avec Mitski, sur le beau titre Sanctuary.
Le dernier album du chanteur belge Tamino, chroniqué ce soir par Sophie Torlotin pour refermer cette édition.
On ira le voir en concert ensemble, Adrien Tamino. Merci beaucoup, c'était le grand journal du soir sur RFI. Il est 19h16 ici à Paris.
Romain Ozoui.
Allez, un coup d'œil au programme des prochaines minutes et on va évoquer le défi sécuritaire des nouvelles autorités en Syrie. Défi souligné par les récents massacres qui ont touché la minorité alaouite. Nous appellerons nos collègues du journal La Croix qui se penchent sur cette question. Et puis, on a évoqué dans le grand journal du soir le procès de Gérard Depardieu qui s'est ouvert ce lundi. Comment mieux protéger les personnels présents sur les tournages des violences sexistes et sexuelles? Eh bien, une commission d'enquête à l'Assemblée nationale formule des propositions pour tenter d'y répondre. Reportage à suivre. Mais pour l'heure, sur RFI, eh bien voici les sports. Bonsoir Olivier Pron.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. On ira voir un match de foot ensemble, nous.
Oh, bah, après les concerts, ouais, après avec le concert. Adrien Delgrange, évidemment. Ouais. Il y a du foot ce soir, beaucoup. Après la Ligue des Nations ce week-end, place aux qualifications pour la Coupe du Monde 2026 en zone Europe.
6 matchs au total pour le compte de la deuxième journée. Je ne vous parle que d'un seul, les 5 autres. Bon, voilà, on en parlera plus tard. Concerné notamment l'Angleterre qui affronte la Lettonie. Après son succès 2-0 sur l'Albanie vendredi, pour la grande première de Thomas Tuchel, sur le banc, les Three Lions visent le carton plein, ou la passe de deux, si vous préférez. Ils compteront bien sûr, comme souvent et comme vendredi, sur Harry Kane, l'attaquant du Bayern en grande forme, à tel point qu'il impressionne son milieu de terrain, Declan Rice.
He's insane. Honestly, Harry est incroyable. Quand vous voyez comment il travaille, ça fait si longtemps que je le vois s'entraîner. Je l'ai vu jouer tellement de matchs pour l'Angleterre. Et le nombre de fois où il nous a tiré l'affaire avec un but, un triplé ou un doublé. L'autre soir, ce qui m'a plu dans son but, c'est la façon dont il a pris la balle, attendu que le défenseur passe et puis a créé l'espace. Peu de joueurs pensent comme ça et c'était du très haut niveau. Au Bayern, il a atteint pratiquement les 100 buts en 2 saisons là-bas. Au total, il en a marqué 70 pour l'Angleterre. C'est un homme incroyable, un grand capitaine. Je suis sûr qu'il vise la barre des 100 avec la sélection. Et je pense qu'il peut y arriver.
He's insane, on l'a bien compris. Harry Kane, Angleterre-Lettonie à Wembley. Coup d'envoi 19h45, TU.
Les éliminatoires de la Coupe du Monde qui se disputaient également la nuit dernière dans la zone Océanie.
Ah ça, je vous fais voyager ce soir. La qualification de la Nouvelle-Zélande, Romain, après un succès 3-0 sur la Nouvelle-Calédonie en finale du tournoi de cette zone Océanie. C'était à Auckland, en Nouvelle-Zélande donc. Les All Whites participeront ainsi à leur troisième mondial après 82 en Espagne. 3 défaites. 2010, on était où?
2010, 3 matchs nuls.
C'était en Afrique du Sud. C'était en Afrique du Sud, je vous demandais où c'était. Okay. En pleine progression, donc. Du côté des Néo-Calédoniens, ils ont encore une chance quand même de se qualifier en passant par les barrages intercontinentaux. Une perspective bien lointaine pour le moment pour leur sélectionneur, Johan Sidaner.
Oui, mais c'est déjà très loin. On n'est pas encore là-dedans. Il y a un peu forcément de déception. On a beaucoup aimé le fait de jouer ici. C'était vraiment chose très complexe, surtout dans notre situation. Jouer ici dans l'antre de la Nouvelle-Zélande, ça rajoutait de la difficulté. Tout était réuni pour que ce soit compliqué. Mais malgré tout, on reste très fiers et on se projettera au mois de 2026 pour jouer ce barrage intercontinental. Mais j'ai adoré mon équipe, j'ai adoré le comportement, j'ai adoré le match qu'ils ont fait. J'ai tout adoré, mais ça n'a pas suffi.
Bah, c'est déjà pas mal d'adorer, hein. Le mondial 2026 sera co-organisé par les États-Unis, le Canada, le Mexique. Ce sera du 11 juin au 19 juillet. Et cette course bat son plein aussi, vous le savez, en Afrique. 8 matchs ce lundi, comptant pour la 6e des 10 journées de qualification. RCA, République Centrafricaine, Mali à Casablanca, ça vient de se finir. 0-0. Guinée-Bissau, Burkina Faso, victoire burkinabé. 2-1 grâce à un doublé de Lassina Traoré. Le reste, c'est dans Afrique Soir avec Sofiane Amazian dans quelques minutes. On termine juste rapidement, le tennis à Miami, qualification pour les huitièmes de finale de Gaël Monfils la nuit dernière, qui pourrait être rejoint par Arthur Fils, un autre Français opposé à l'Américain Tiafoe dans quelques minutes, et qui, s'il passe, retrouvera l'Allemand Zverev, tête de série numéro 1.
Bah, on n'a pas parlé que de football, Olivier
Pro. Eh ben non.
Merci beaucoup, c'était le Journal des Sports. Il est 19h20 ici à Paris. On évoque à présent la Syrie. C'est la grande question, comment les nouvelles autorités vont-elles parvenir à l'unité du pays, unité mise à mal ? Au début du mois, la minorité alaouite a été touchée par des violences avec la mort d'un millier de civils dans l'ouest du pays. Bonsoir Julie Conan.
Bonsoir.
Chef adjointe du service monde du journal La Croix. Alors ces tueries soulèvent la question de la capacité du président par intérim, Ahmed al-Shara, eh bien, à tenir les forces sécuritaires. C'est un sujet que La Croix va aborder dans son édition à paraître demain mardi. Première question, sur quoi reposent justement les forces de sécurité syriennes depuis la chute de Bachar al-Assad ?
Alors, ces forces de sécurité syriennes qui ont pour vocation initiale de stabiliser le pays sont une espèce de force composite avec tout d'abord les islamistes alliés de Ahmed al-Shara, Hayat Tahrir al-Shams, qui en forment l'ossature. Mais tout autour de HTC, différents groupes armés se sont agrégés pour la renforcer dans l'esprit du nouveau leadership. Donc, on y trouve l'armée nationale syrienne, qui est en réalité un conglomérat de groupes armés qui sont soutenus par la Turquie, qui ont été intégrés aux troupes régulières fin janvier. Et on trouve également toutes sortes de milices, mais également de simples civils, qui en reçoivent très peu de formation.
Et alors, ces forces de sécurité ont été confrontées, lors des violences qui ont touché la minorité alaouite, notamment aux forces de l'ancien régime Bachar al-Assad?
Oui, qu'on appelle les fouloules, qui sont littéralement les vestiges du régime de Bachar el-Assad. Ces mêmes forces qui ont attaqué la ville de Jablé début mars, une patrouille de forces de sécurité qui, là, était extrêmement mal entraînée puisque les nouvelles recrues n'avaient pas reçu plus d'une vingtaine de jours de formation. Résultat, une trentaine d'entre eux ont été tués.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les forces de sécurité répondent aux défis soulevés par la Syrie de l'après Bachar al-Assad ?
Ben c'est ce que souhaiterait Ahmed al-Shara, mais en réalité, à l'épreuve de ces trois dernières semaines, on se rend compte surtout de l'incapacité du pouvoir pour l'instant à faire respecter ses ordres, puisque ses forces lui échappent. On doute également de la capacité de ses forces à rendre compte de leurs faits et de l'incapacité du président par intérim à discipliner ses partisans qui se sont rendus de coupables d'exactions.
Et il y a beaucoup d'interrogations, je dis Conan, sur ce qui s'est passé. Les bilans diffèrent dans l'ouest du pays quand cette minorité alaouite a été victime de massacres.
Oui, effectivement, certains bilans parlent, alors c'est l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui parle de plus de 1600 civils tués début mars. Le pouvoir, lui, parle de 200 morts. En réalité, il est très difficile d'établir ces bilans tant que les deux commissions qui ont été créées sur décision présidentielle ne pourront pas faire la lumière sur le déroulement des événements. C'est un travail qui va prendre du temps. Effectivement, il y a des doutes sur la capacité de ces instances à faire la lumière sur ces exactions.
Et c'est une situation qui pose la question de la communauté alaouite, qui est la communauté de Bachar al-Assad, l'ancien président syrien. Que devient cette communauté ?
Oui, tout à fait. Elle représente déjà 10% de la population, ce qui est important. C'est une minorité qui est en marge de l'islam, vous l'avez dit, dont est issu Bachar al-Assad. Et c'est une communauté sur laquelle l'ancien président syrien s'appuyait, exerçait son emprise et limitait leur autonomie. Mais ils avaient des fonctions parfois très importantes, comme au sein de la très puissante 4e division blindée qui était menée par le frère de Bachar el-Assad, Maher, et qui accusait elle-même de toutes sortes d'exactions. Mais c'est une communauté qui avait un rôle de colonne vertébrale au sein du régime et se pose la question de son avenir, en fait, au sein du nouveau pouvoir.
C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'elle se trouve menacée aujourd'hui, cette minorité alaouite, suite aux violences qui l'ont visée, notamment, aujourd'hui, et avec le nouveau pouvoir, évidemment?
Alors, elle se sent menacée, elle fait partie, c'est-à-dire que la plupart des morts du début mars sont des alaouites. Le pouvoir tient un autre discours, un discours inclusif. On verra s'il peut s'y tenir, mais une partie de ces anciens soldats qui composaient notamment des unités d'élite au sein de l'armée se sont tranchés dans les montagnes proches de la côte. Donc, il faudra voir s'ils arrivent à mener, comme certains parmi eux le souhaitent, une véritable contre-insurrection qui menacerait réellement le pouvoir de Damas.
En Syrie, la nouvelle armée nationale peine à contrôler ses troupes. Titre d'un article qu'on a retrouvé ce mardi dans La Croix et évidemment sur votre site internet. Merci Julie Conan.
Merci.
Il est 19h25 ici à Paris. En France, le procès de Gérard Depardieu s'est donc ouvert ce lundi. Procès emblématique de la vague MeToo dans le cinéma français. L'acteur est jugé pour agression sexuelle sur deux femmes lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. Alors procès qui soulève de nombreuses questions et notamment celle de la prise en compte des violences sexuelles sur les tournages. Comment les dénoncer? Comment mieux protéger les acteurs et actrices majeurs ou mineurs? Pour tenter de répondre à ces questions, une commission d'enquête est en cours à l'Assemblée nationale, à l'initiative de l'actrice Judith Godrèche. Les travaux touchent à leur fin et il y a déjà des propositions concrètes pour faire évoluer et tenter de faire évoluer ce cadre législatif. Baptiste Coulon.
Ce fut l'un des temps forts des auditions menées par la commission. Le témoignage de l'actrice Sarah Forestier, qui accuse son partenaire de jeu Nicolas Duvauchel de l'avoir giflé sur un tournage en 2017.
Et en fait, on essaye de m'empêcher d'aller au commissariat. L'équipe panique, quoi. Ils savent pas gérer ce genre de situation. À ce moment-là, il y a qu'une seule chose qui prend toute la place, c'est la peur. Par rapport à l'argent, par rapport aux assurances. Et donc, en fait, tout de suite, ce qu'on fait, c'est qu'on met la poussière sous le tapis et la victime doit encaisser.
L'actrice a depuis déposé plainte, l'acteur, lui, nie les faits. Comédien, réalisateur ou producteur, durant 6 mois, ils ont été plus d'une centaine à être auditionnés par la commission d'enquête. Sa présidente, la députée écologiste Sandrine Rousseau, dresse un bilan contrasté.
Il y a quelque chose entre le vécu des personnes victimes, qui relatent des faits récurrents, et de l'autre côté, un monde du cinéma qui comprend l'enjeu, mais qui reste encore assez aveugle à la réalité des vécus des personnes.
Un aveuglement et des défaillances. Exemple concret, l'audition de la réalisatrice Catherine Corsini. Violence verbale, gestes déplacés. En 2022, le tournage de son film Le Retour est chaotique. À cela s'ajoute une scène à caractère sexuel impliquant une actrice mineure non déclarée auprès de la commission des enfants du spectacle.
Je me suis dit, bon voilà, ils sont d'accord et ça les a fait marrer. Ils ont dit, bon on y va, on l'a fait rapidement et puis ça s'est bien passé, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'aurait pas dû le faire.
S'il y a un coach d'intimité, voilà. Ça simplifie tout, en fait.
À l'époque, moi, je n'avais pas encore à l'esprit que c'était dans les pratiques le coach d'intimité. C'est vrai, je pensais que l'intimité, c'est moi qui l'avais avec les acteurs et qui, voilà, j'ai voulu travailler de cette manière-là sur ce tournage.
Le coordinateur d'intimité, ce médiateur entre réalisateur et comédien qui encadre les scènes intimes. Un métier peu développé en France et pas obligatoire sur les plateaux. Alors, c'est l'une des priorités identifiées par la commission et sa présidente Sandrine Rousseau.
Les coordinateurs d'intimité, c'est vraiment parmi les personnes qui manquent aujourd'hui dans les tournages. Il faut qu'on sache exactement ce qui va être tourné, ce qui va être monté, ce qu'on va retenir comme plan. Ça, c'est absolument indispensable.
Indispensable au point de figurer en bonne place dans le compte-rendu final de la commission, explique son rapporteur général, le député Modem Erwan Balanant.
Il faut rendre systématique le fait que les coordinateurs d'intimité soient proposés et qu'ils soient obligatoires si l'un des deux protagonistes souhaite qu'il y ait un coordinateur d'intimité.
L'une des nombreuses propositions du rapport final publié début avril et qui débouchera peut-être sur une proposition de loi.
Baptiste Coulon sur RFI. Il est 18h, bientôt 29 minutes en temps universel. On jette un coup d'œil au programme qui vous attend. La session d'info du soir sur RFI se poursuit pendant encore 1h30. Dans une minute, vous aurez rendez-vous avec la première édition d'Afrique Soir avec Zéphirin Kouadio et à la une le rapt de deux journalistes ce matin à Ouagadougou, la capitale du Burkina. Il s'agit du président et du vice-président de l'association des journalistes. À 19h temps universel, ce sera le journal international de Véronique Rigolet, et puis 19h10 TU, votre session reportage pendant 50 minutes comme chaque soir. Accent d'Europe en Ukraine ce soir pour évoquer le retour douloureux des soldats, et puis le grand reportage au Farchana au Soudan, communauté qui fait face à une double crise climatique et humanitaire. Ne bougez pas, on revient dans 30 secondes sur RFI.
Le journal en français facile.
L'intérêt de ce journal est qu'il se présente comme un français accessible et inclusif.
Adrien Delgrange.
Je vous retrouve du lundi au vendredi pour un journal d'information internationale. 10 minutes pour mieux comprendre l'actualité mondiale en français.
Grâce à sa transcription en temps réel, ça permet aussi de travailler la lecture.
Retrouvez Adrien Delgrange pour Le journal en français facile tous les jours de la semaine à 16h temps universel.